l'actualité des idées aujourd'hui, la culture solidaire de la cause palestinienne. C'est un projet en suspens, condamné pour l'instant à rester itinérant, celui d'un musée d'art moderne et contemporain palestinien, pensé par l'artiste Ernest Pignon Ernest, porté par Jack Lang de l'Institut du Monde Arabe et l'écrivain Elias Sambar. En attendant de prendre racine quelque part en Palestine, une partie de la collection créée avec la solidarité d'artistes européens rejoints par des artistes arabes est actuellement présentée à Lima, à Paris, jusqu'au 13 mai. Lima qui abrite à l'année la collection dans ses réserves. Dans un contexte de regain de violence à la frontière israélo-palestinienne et de blocage dans les instances internationales sur ce dossier, quelles sens donné à cette initiative. À nos côtés, pour en parler, Elias Sambar, historien et écrivain palestinien, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour un musée en Palestine, deuxième volet intitulé « Nous aussi, nous aimons la vie ». Ces mots sont de Mahmoud Darwish, vers coupé à moitié qui poursuit « Quand nous en avons les moyens ». Il s'agit ici de se donner les moyens d'aimer la vie, Elias Sambar. Pas de vie sans art, sans culture.
Bien entendu, mais ça serait la palissade que de ne s'en tenir qu'à cela. C'est un projet qui a une sorte, vous avez un peu fait référence à la conjoncture actuelle. C'est un projet qui est également un défi à la conjoncture. C'est un projet dont j'ai recueilli parfois quelques commentaires autour d'un thème qui revient très souvent dans quand on fait face à de telles initiatives, c'est est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est maintenant le temps pour... Je pense que c'est absolument le temps. C'est-à-dire, il faut, parallèlement à tout le reste qui est dans la réalité, continuer à prendre le pari qu'à un moment donné, la vie sera infiniment plus forte que tous les désastres auxquels nous faisons face. Et il n'est jamais trop tôt pour commencer de telles initiatives. Cette initiative qui nous surprend nous-mêmes, hein, Ernest Pignon et moi. Bien entendu, elle a été accueillie immédiatement et de façon très généreuse, qui me touche beaucoup, par Jacques Lang. Nous avons signé une convention pour que le temps que le musée soit bâti, déjà, il faut le construire.
Vous ensuite, souhaiteriez le bâtir où, ce musée ?
Dans la capitale, c'est un musée national d'art moderne. Il sera dans la capitale.
C'est-à-dire ?
De la Palestine indépendante, Jérusalem-Est, qui est aujourd'hui la capitale occupée de la Palestine indépendante. Donc il sera à Jérusalem-Est.
Vous avez sollicité, pardon, déjà des autorisations pour le construire, ce musée ?
Des autorisations, je les prends de la présidence palestinienne, pas de l'occupant, madame.
Donc elles vous ont été délivrées ?
Bien entendu.
Alors pourquoi ce musée n'est pas construit pour l'instant ?
Ce projet est né d'un décret présidentiel qui m'a... Une fois que j'ai exposé l'idée, qui m'en a confié la responsabilité. Et nous avons toutes les instances nécessaires sur le plan des organes qui sont en train d'être constitués. C'est vrai que c'est un projet qui ressemble pas beaucoup au projet habituellement lancé pour construire des musées, mais je pense que c'est d'autant plus un beau projet que il a un peu cette part de défi et de pari, comme je l'ai dit encore, sur la force de la vie.
L'idée a germé dans le cerveau quand même d'Ernest Pignon Ernest à la fin des années 2000, en 2009. Qu'est-ce qui fait que pour l'instant ce musée ne soit toujours pas construit, presque 10 ans après que l'idée soit née ? Qu'est-ce qui retarde sa construction ?
Le musée n'est pas encore construit pour 3 raisons. La première, c'est que si vous connaissez Jérusalem, c'est un espace où il est très très difficile d'avoir des parcelles libres. Or, nous avons besoin d'une parcelle de ce qu'on appelle dans les unités de surface en Orient le denom, qui est 1000 mètres carrés. Nous avons besoin de 5000 mètres carrés. Une fois le terrain choisi, il va nous falloir, tout comme pour les artistes, et nous avons commencé les contacts, demander à des architectes un acte solidaire également au niveau des plans. Et il y a des architectes qui disent qu'ils sont déjà extrêmement intéressés par ce projet. Ensuite, il faudra lever les fonds. Et puis, il y a également, on revient forcément à la réalité, que c'est un projet qui peut être très très vulnérable. Nous avons déjà eu quelques expériences, notamment à Beyrouth, quand nous avons vu, après 82, des camions débarquer, embarquer des bibliothèques entières et repartir. Donc, il faut à tout prix que le projet soit protégé. Ce projet est pour le moment franco-palestinien. C'est pas juste un détail de stockage. C'est pas juste le fait qu'il est à l'Institut du monde arabe et que j'ai signé une convention avec Jacques Lang. C'est un projet commun. Donc, nous allons également le développer en ce sens. Dans l'intervalle, il y a déjà une association qui est tout à fait enregistrée légalement en France avec le conseil d'administration qui continue à gérer les choses. Ce qui est extrêmement encourageant et très beau, très très beau, c'est que nous sommes mais littéralement débordés d'offres de dons. Et par les plus grands artistes. Il y a de très très grands artistes qui ont donné et avec une vitesse qui nous surprend nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 346 œuvres. Ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de 2018, on se trouve à peu près à 600 œuvres et encore, et ça continue. En plus, nous avons élargi le spectre, hein. C'est-à-dire que j'expose de la photographie, de la bande dessinée, bien sûr, sculpture, peinture, et ainsi de suite. Et là, Jean-Luc Godard vient de m'offrir son dernier film.
Sur le langage.
Comme un objet qui d'ailleurs... Je crois que la copie était prête avant-hier. Donc, que nous montrerons comme un objet, que nous diffuserons pendant les expositions. Donc, il y a énormément de possibilités. C'est un sujet aussi, on ne souligne pas suffisamment le fait que un lieu comme celui-ci à Jérusalem-Est, bien sûr, et à Paris, à tout ce que j'ai dit, peut être également un lieu de réconciliation. Et alors, ça n'est pas un détail.
Pensez pour un territoire. Cette collection est aujourd'hui en exil. Elle est déterritorialisée, justement. Le projet a été inspiré de Musée de l'Exil, une collection, là, cette fois, portée par des artistes internationaux pour dénoncer l'apartheid en Afrique. On voit un peu le sens que vous souhaitez donner à cette collection et à ce futur musée. S'il sort de terre un jour, quel risque dans cette absence, pour l'instant, de perspective culturelle, quel risque pour les Palestiniens? Est-ce que c'est pour vous un emmurement des imaginaires, Elias Sambar?
Vous savez que cette collection sud-africaine est aujourd'hui au musée en Afrique du Sud. Donc il y a quand même à un moment donné des aboutissements. La deuxième chose, ce n'est pas un musée de l'exil. C'est un musée qui est en exil, mais ce n'est pas un musée de l'exil, car ce n'est pas la thématique du musée. Et je dis très très souvent à des amis palestiniens ou arabes, ce n'est pas un musée de la Palestine, c'est un musée pour la Palestine. Il y a déjà beaucoup de musées sur place, qui sont des fondations privées, notamment en Cisjordanie, et qui font de l'excellent travail. Moi, ce à quoi j'ai pensé, et c'est pour ça que je tiens à chaque fois à préciser ce caractère d'une institution publique, musée national, je pense que c'est une fonction, même si l'État n'est pas encore là, c'est une fonction qui doit être assurée par l'État vis-à-vis de ses citoyens, une fonction de proposer, de fournir un lieu de beauté et d'esthétique pour tous ces citoyens. Et donc, c'est pour ça que je tiens beaucoup à ce caractère de musée national et pas simplement un musée palestinien, et ainsi de suite. Et bien sûr que c'est un défi, comme je vous l'ai dit. Et on verra ce qui adviendra. Mais je ne pense pas que ce musée soit destiné à demeurer exilé. Il n'est pas exilé, hein. Il est de passage en France. Et je pense qu'à un moment donné, nous aurons la possibilité d'embarquer toute la collection et de faire un seul et unique voyage. Et j'ai déjà dit aux artistes que ce qui serait la partie la plus bouleversante, c'est que les artistes, par dizaines, accompagnent leurs œuvres quand nous les transporterons sur place.
Alors pourquoi maintenant, pourquoi dans cette conjoncture, comme vous l'évoquiez au début de cet entretien, Elias Sambar, nous ne pouvons plus attendre, voilà déjà ce que disait en 2007 le poète Mahmoud Darwish, traduit par vos soins, de la poésie à l'art ou de l'art à la poésie.
Ils aiment entendre maintenant des poèmes d'amour. Et comme une réponse, hein, comme une riposte à la violence de la guerre. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que malgré tout, l'occupation et la guerre n'ont pas du tout annihilé notre humanité. Nous vivons un conflit qui a maintenant quasiment un siècle. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui écrire le même poème que nous écrivions il y a 60 ans. Et nous ne pouvons plus remettre à plus tard notre vie personnelle dans l'attente de cette solution globale du conflit en tant que tel. Le poème qui remet à plus tard la voix individuelle, la voix personnelle, en attendant que les très grandes questions soient résolues. C'est un poème inatteignable quasiment. Et c'est des poèmes solubles, extrêmement solubles, un peu comme les slogans quotidiens. Et il faut savoir fondamentalement que le Palestinien est un être humain et non pas une fonction. Je crois que Darwish vous a déjà répondu à ma place qu'il n'est pas question de remettre indéfiniment notre vie à plus tard. C'est la seule chose que je vous aurais dite. Pourquoi à ce moment? Eh bien, par rapport au moment où je me suis lancé dans l'histoire, c'est juste, non pas anecdotique, mais juste un fait. Je ne connaissais pas, moi, l'expérience qui avait été faite pour le combat des artistes contre l'apartheid, l'expérience de constituer une collection. Et c'était un jour où j'étais avec Ernest, Pignon Ernest, et qui avait été très actif déjà dans cette première initiative, qui me dit, tu sais, un jour on a fait ceci et cela. Je lui dis, mais écoute, ça c'est un projet pour moi. C'est comme ça que c'est né, hein, au départ. Nous avions déjà, dans le cadre de la délégation de Palestine, 7 à 8 ou 10 œuvres qui avaient été offertes par des artistes. Nous les montrions parfois lors de certaines réunions à l'UNESCO, mais nous ne savions pas qu'en faire. Et là, l'idée était tout à fait formidable et enthousiasmante. Et donc, je m'y suis lancé immédiatement. Ça a coïncidé avec le passage du président de la Palestine, où j'ai été le voir, lui, voilà. Et je voudrais un décret pour lancer le projet officiellement. Et ça a été fait immédiatement même à l'hôtel. Et nous sommes lancés.
Elias Ambar, Antoine Mercier, restez à mes côtés pour vous interroger une question.
Voilà, vous parlez de musée national palestinien. Or, finalement, dans ce que
musée
vous
décrivez... Musée national de la Palestine. Vous savez, chez nous, les mots sont tous très, très chargés. Oui.
Si on regarde... par rapport à ce que vous nous dites, c'est-à-dire ce sont des dons qui sont faits par des artistes,
oui.
Cette partie nationale de la Palestine sera constituée de cette solidarité vis-à-vis de la lutte pour les Palestiniens, et comme s'il n'y avait pas de substance propre à ce musée qui ne serait qu'une réaction finalement ou un soutien.
Les musées palestiniens existe. Il y en a un très très beau et qui commence un très beau travail qui a été construit récemment entre Ramallah et l'université de Birzeit dans un site féerique d'oliveré très très beau avec une très très belle architecture. Et il y a beaucoup d'initiatives, notamment à l'université de Birzeit ou ailleurs, de musées de la Palestine, c'est-à-dire d'œuvres directement liées à la question palestinienne ou bien de pièces, qui relèvent soit de l'anthropologie, soit des traditions populaires, soit de la broderie. Par exemple, en ce moment, une magnifique exposition dans ce musée palestinien sur les robes traditionnelles, et ainsi de suite. Donc ça existe. Ce musée n'est pas un musée qui va être là pour faire une espèce de sous-titrage de la question palestinienne. Ce n'est pas un commentaire sur la question palestinienne. C'est un musée qui dit qu'à un moment donné, des artistes de toute la planète ont dit « je me sens suffisamment concerné par ce qui arrive à ce peuple pour donner une part de moi, parce que je pense qu'une œuvre, c'est une part de l'artiste, et qu'elle soit là en témoignage de ce moment où il y a eu ce geste ». Et alors, nous avons des artistes palestiniens, mais ils n'illustrent pas, ils disent leurs états d'âme. Et à ce moment, on sort...
Alors justement, est-ce que dans les œuvres qui vous sont données, finalement,
offertes,
est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que c'est en rapport avec ce soutien, ce geste de soutien ou pas?
Non, ce qu'il y a de particulier, c'est la beauté de la création. Vous savez, cette expo-là, qui est en cours aujourd'hui, est dédiée à un immense peintre, qui était Henri Cueco. Henri Cueco a été un des premiers donateurs, qui nous a donné une très très belle toile. Cette expo lui est dédiée parce qu'il est décédé pendant la première exposition l'an dernier. Et il n'y a aucun rapport direct, immédiat, entre la toile qui est accrochée là, que nous exposons pour la deuxième fois, et la question palestinienne. Mais il y a le rapport très très fort qu'à un moment, cet artiste qui a créé cette œuvre est lié quelque part à ce qui arrive à ce peuple. Et c'est cela le musée. Maintenant, dans une phase postérieure après. Une fois qu'il sera en Palestine, une fois qu'on pourra ouvrir également les portes pour des raisons de pratique aux artistes palestiniens eux-mêmes qui sont là-bas, parce que vous comprenez, aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens que je fasse venir des pièces qui sont en Palestine vers Paris pour les ramener en Palestine. Ça n'a pas de sens. Par contre, nous sommes en train de nous adresser maintenant très très fortement vers tous nos frères qui sont dans les pays d'Afrique du Nord. Pour qu'ils, et ils commencent à avoir des choses qui arrivent. J'ai eu, ça, c'est bon à signaler, j'ai eu le premier message d'un peintre israélien qui m'a dit, moi je suis solidaire, est-ce que vous m'accueillez? J'ai dit, mais absolument. Et nous le verrons en mai. Et on nous aurons une œuvre. Et ça ne sera pas la première, à mon avis, nous allons avoir beaucoup.
5000 mètres carrés, ça va être juste alors, peut-être.
Avec... Peut-être, peut-être. Mais ce qui est exceptionnel aussi, et ce n'est pas, c'est pas une fanfaronnade, je ne sais pas aujourd'hui si dans le monde arabe et les pays du monde arabe qui regorgent de moyens, je ne sais pas s'il y a un musée qui a une collection, même aujourd'hui, d'une telle qualité. Je parle d'une collection contemporaine. Je ne sais pas s'il y en a un qui a une...
Non, pardon, finissez.
Oui. Et donc, il y a tout cela dans l'enjeu. Mais surtout, et la question que vous posez est très importante, parce que je passe mon temps à dire aux Palestiniens, ce n'est pas un musée de la Palestine, c'est un musée pour. Et il y a un petit épisode, l'an dernier, qui m'a beaucoup ému. Il y a eu beaucoup d'adolescents palestiniens qui sont venus l'an dernier. D'ailleurs, les vernissages sont très beaux parce que c'est quasiment familial. Il y a des enfants, et c'est très très beau. Ça vous montre un peu comment un peuple pourrait prendre possession du lieu. Et donc, les jeunes étaient extrêmement contents. Et j'ai posé la même question à plusieurs. Qu'est-ce qui vous a plu? Je me suis dit, ils vont me parler d'une toile, ils vont me parler. Alors, systématiquement, dans les cartels, donc sur chaque œuvre, il y a le nom de l'artiste, l'année, le titre, une huile, une aquarelle, ainsi de suite. Et après, il y a collection du Musée national d'art moderne de la Palestine. Ça les avait bouleversés de pouvoir enfin lire collection du Musée national de la Palestine. Donc, vous voyez, c'est une dimension très importante qui n'est pas a priori dans le projet, mais qui en résulte.
Et en même temps, Elias Sambar, on peut se dire que si l'art... véhicule du beau, il peut aussi véhiculer des idéaux, voire une histoire, l'histoire d'une culture, la culture palestinienne en l'espèce, qui est elle-même souvent porteuse d'une identité palestinienne. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui une culture palestinienne qui ne soit pas en lutte, qui passe par d'autres chemins que par celui de la politique?
Heureusement, parce que... Comme vous l'avez diffusé tout à l'heure, j'ai été pendant des années un ami très très proche de Mahmoud, et donc j'ai traduit quasiment toute l'œuvre, et surtout je l'ai beaucoup accompagné à des entretiens. Et lors d'un entretien pour une chaîne de télé, Arte je crois que c'était, à un moment donné le journaliste lui dit « Quand est-ce que vous estimerez que vous serez totalement libéré ?» Et Mahmoud lui a dit, lorsque nous serons délivrés de la Palestine, ça n'est pas un reniement. C'est pour dire que les conflits, même quand vous êtes engagé dans des causes très justes, peuvent être des prisons. Parce que souvent, c'est pas qu'on vous empêche de vivre, vous vous empêchez de vivre. Vous vous punissez quelque part d'être dans cette situation, et vous avez tout le temps cette antienne qui revient en permanence. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est utile pour la lutte? Et ainsi de suite. Et je crois qu'il est fondamental, précisément, de casser cela. De dire, nous sommes et en combat, et vivants. Et comme nous sommes vivants, nous nous intéressons absolument à tout, comme n'importe quel être humain sur Terre.
Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table, l'écrivain palestinien, ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, Elias Sambar. Il est 13h15.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Se libérer de la Palestine, disait Mahmoud Darwish, on n'y est pas, on en est même encore très loin. 70 ans de conflit déjà. À la mi-mai, Israël célébrera les 70 ans de sa naissance et les Palestiniens, la catastrophe, la Nakba, soit l'exil forcé de centaines de milliers de Palestiniens. Depuis le 30 mars dernier, une marche du grand retour est organisée tous les vendredis. Le premier vendredi, 30 000 habitants de Gaza ont marché le long de la frontière israélienne, une manifestation qui se répète débattra tous les vendredis jusqu'au 15 mai, date commémorative donc des deux côtés. Près de 30 morts déjà et des centaines de blessés du côté palestinien. Elias Sambar, que se passe-t-il actuellement? Vous disiez le mot de conjoncture. Où en est-on?
Alors, juste un mot avant de vous répondre. Nous sommes déjà libérés dans la mesure où, c'est-à-dire, la terre n'est pas encore libérée, mais nous sommes très très nombreux à continuer à vivre et à vivre pleinement, c'est-à-dire en touchant à tout un registre de choses qui ne sont pas directement liées au conflit. Et heureusement, sinon nous serions des morts vivants. La situation actuelle est un mouvement qui est parti d'associations de jeunes, en réalité, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, de Gaza, avec l'idée de marche civile, à la limite, donc sans armes, sans rien, vers la frontière, et qui viendrait un peu se placer là tous les vendredis, donc une fois par semaine, jusqu'au 15 mai, qui doit culminer, comme vous le savez, avec l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, en présence de Donald Trump. Donc c'est un mouvement qui est de type nouveau, en Palestine. C'est vrai que à un moment donné, et très très vite d'ailleurs, un certain nombre d'organisations politiques, le Hamas ou d'autres, ont essayé un peu de surfer sur cette vague, parce que elle leur échappait pas, mais elle n'émanait pas d'eux. Ce qui est fondamental, c'est que c'est un mouvement populaire et sans armes. Ce qui est également extrêmement parlant, c'est la façon dont Israël, la façon avec laquelle Israël a réagi. Car nous assistons quand même depuis deux semaines, et Dieu sait ce que nous réserve dans quelques jours, le vendredi qui vient, nous assistons à un tir comme dans une fête foraine, sur des cibles humaines. Il y a un journaliste qui a été abattu, nous avons des enfants qui sont abattus, nous avons un adolescent qui a été abattu dans le dos. Et ce qui est bien, c'est que souvent les images viennent du côté israélien. C'est-à-dire que c'est des Israéliens qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. Mais cela...
Alors pourquoi ces tirs? Parce que les autorités israéliennes ont donné l'ordre de tirer effectivement sur les manifestants qui s'approcheraient de trop près de la frontière.
Mais vous savez à quel point la notion du trop près est une discussion absolument impossible à avoir. C'est quoi trop près? En plus, si vous approchez très très près et que vous êtes sans armes, quelle est la menace par rapport à un mur qui est très largement, très souvent électrifié? Où est le trop près? Mais je ne vais pas entrer dans ces discussions parce que c'est vraiment le piège de commencer à dire est-ce que c'est 50 mètres ou est-ce que c'est 15 mètres. La question fondamentale, c'est quelle que soit la situation, et d'ailleurs c'est ce que disent les associations de droits de l'homme en Israël, est-ce que la seule façon de réagir à une foule qui s'approche est de lui tirer dessus à balles réelles? C'est ça la seule question qui compte. Ils n'étaient pas armés. Même s'ils appartiennent à des groupes politiques, là, ils n'étaient pas armés. Et on les tire à chaque fois, avec les félicitations d'ailleurs du gouvernement, ce qui me fait très très peur. Très peur par rapport à ce qui va arriver. Il y a aussi autre chose, une déclaration d'une ministre israélienne que j'ai lue il y a quelque temps, qui a rien à voir avec ce qui se passe à Gaza et qui a beaucoup à voir. Où cette ministre a dit... La préservation de l'identité juive de l'État d'Israël nous impose de ne pas tenir compte de considérations éthiques. Ça glace dans le dos, ça. Une déclaration comme cela. Elle parlait des immigrants et du fait qu'on allait les refouler. Alors, un pays qui est né de l'immigration, qui en arrive à tenir de tels propos, il faut s'arrêter sur ces points et réfléchir. Ce qui va se passer, nous ne savons pas. Par contre, je voudrais juste ajouter une chose. Ce mouvement à Gaza se passe dans une conjoncture régionale extrêmement inquiétante. Vous avez une guerre au Yémen terrifiante. Vous avez l'Irak qui a été un champ de guerre depuis deux ou trois décennies. Vous avez la Syrie qui est un pays quasiment, même si on a des épisodes, qui est quasiment un pays en voie de disparition. La Syrie que nous avons connue n'existera plus. Nous avons la situation en Libye qui est en train un peu déborder sur tout le continent africain noir avec des groupes qui commencent. Donc on est dans une situation d'instabilité extrêmement préoccupante et je ne vois pas de réaction, ne serait-ce qu'une réaction sensée pour commencer à réagir. Il y a aussi le fait que...
Et les grandes institutions, les grandes instances internationales, elles ne vont pas adopter une position commune.
Elles n'ont pas d'armée des institutions internationales.
Mais au moins une voix commune. À l'UNESCO, où vous êtes, est-ce qu'il y a une voix commune qui est en train d'être cherchée?
L'UNESCO n'a ni de division blindée, ni d'aviation pour bombarder les gens qui balancent des gaz toxiques sur les enfants. L'UNESCO peut simplement prendre des positions de principe et dans la mesure de ses moyens, dans ses champs de compétences, c'est-à-dire la culture, les sciences, ainsi de suite, faire des choses. L'UNESCO a beaucoup bougé par rapport aux sites, parce que les sites du patrimoine mondial, il y en a beaucoup qui ont été extrêmement endommagés. Là, il y a eu du travail, c'est dans ses champs de compétences, mais ça reste extrêmement, c'est très beau, c'est très touchant, c'est très émouvant, mais ça reste très très peu de choses par rapport à la folie générale et à la barbarie, il n'y a pas d'autre terme, il y a une barbarie en cours. Et elle s'accompagne également d'une démission d'un très grand nombre de puissances. Parce que je pense qu'on aurait eu les réactions un tout petit peu plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais le nombre de pays qui ont dit, bon, maintenant on va voir comment ça évolue, et puis il faut faire attention. Je pense par exemple à l'opposition que nous avons entendue au début du mouvement en Syrie, où il y avait des foules dans les rues qui étaient sans armes, sans rien, qui demandaient juste un peu de liberté et de possibilité de vivre. Qu'est-ce qu'on nous a dit pendant 2 ans? On ne va pas intervenir. Il se faisait tirer dessus. Qu'est-ce qu'on a entendu? On ne va pas intervenir parce que vous comprenez, les islamistes pourraient en profiter. Il n'y avait pas encore les islamistes en Syrie. Maintenant, je vous promets qu'ils y sont. Et le fait qu'on ait donné 2 à 3 ans de délai a permis précisément aux islamistes d'entrer dans le jeu.
Donc, puisque de conjoncture, il est toujours question, Elias Sambar, comment vous expliquez que la question palestinienne, longtemps centrale, soit devenue à ce point-là marginale? Comment vous l'expliquez? Aussi ce silence des intellectuels, ce silence de la communauté internationale. Pourquoi le Proche-Orient n'indigne plus, ne mobilise plus?
Je ne pense pas qu'elle soit marginale, c'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase dans laquelle il n'est que justice que les peuples arabes, qui pendant très très longtemps se sont consacrés, ont aidé, ont été solidaires de la question palestinienne, s'attaquent à des questions infiniment plus urgentes qui les concernent, qui sont les disparitions de leur propre pays. Et je pense que la moindre des choses serait de dire aujourd'hui la priorité et de faire face à ces dangers, de ne pas continuer à dire juste comme une espèce de dogme, la Palestine est la question centrale. Elle est centrale, elle restera centrale. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un moment où ce que je pense, c'est que la première chose à laquelle devraient penser les Palestiniens, c'est comment être solidaires avec nos frères, parce qu'ils ont été si longtemps solidaires avec nous.
Est-ce que vous craignez une escalade de la violence? Est-ce que face à la radicalisation droitière du pouvoir israélien, on risque d'assister côté palestinien à une radicalisation similaire? Pour ouvrir cette dernière question, je vous propose juste, parce que vous évoquiez le mouvement en cours, populaire, citoyen, d'écouter ce qu'on disait sur notre antenne cette semaine, Alain Dikoff, directeur du CERI, qui évoquait, lui, l'intérêt aussi pour les organisations politiques palestiniennes à se réapproprier le mouvement dont il n'est peut-être pas à l'origine.
Ce qui me paraît assez évident, c'est que il y a quand même assez clairement une volonté du Hamas d'utiliser ce type de mobilisation pour se remettre en selle politiquement. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Et le fait qu'ils aient en effet ouvertement revendiqué un certain nombre de personnes tuées comme des martyrs montre bien qu'il y a cette volonté de réappropriation politique. Alors, moi, la question qui m'intéresse, c'est réappropriation politique, pourquoi ? Alors, réappropriation politique, à mon avis, par le Hamas, parce que dans le fond, il n'est pas en très bonne posture politiquement. Parce que depuis maintenant quelques mois, il y a un accord dit de réconciliation qui a été signé avec le Fatah. Le résultat, c'est qu'il n'a rien donné.
Elias Sambar.
C'est possible, hein, on ne peut pas faire de pronostic. Est-ce que ça va déboucher sur de la violence ou pas? Par contre, je pense qu'il y a un constat terrible à faire. Finalement, dans les pays frères, les pays voisins frères, les dégâts, les massacres, les morts ont été infiniment plus lourds que ce que les Palestiniens ont connu pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent se dire maintenant nous sommes bien à l'abri puisque nous sommes occupés et nous ne sommes pas massacrés. Mais ça vous dit un peu une idée de l'ambiance dans les esprits. Les gens pensent qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans leur voisinage immédiat est infiniment plus grave que ce que eux vivent. Il y a une deuxième chose aussi qui est une sorte d'obstination à être là. La Palestine tient le coup depuis un siècle, avec des phases très différentes, mais elle tient le coup par cette pesanteur. C'est-à-dire, les gens sont là, ils vont pas bouger. Ils ont compris d'ailleurs ce qui s'est passé en 48, que quand on sort, on ne rentre plus. Et donc, ils ne vont pas bouger. Ils sont là. Comment résoudre ce problème? Ça, c'est la question qui va être posée à Israël s'il continue à stocker, à mettre, faire une mainmise sur les terres, sur le territoire. Car le rêve dans les colonies, c'est d'avoir des terres vides, non pas d'avoir des terres plus leurs habitants. Donc, ils sont là. En tout cas, le problème ne va pas être résolu. Ils sont là, ils sont nombreux, par la comparaison à la démographie israélienne. Ils sont quasiment dans les mêmes, je suis pas en train de parler d'une guerre démographique, mais ils sont là. C'est pas une petite minorité. Ils sont très conscients de ce qu'ils sont. Ils sont très conscients de leur attachement et du fait que s'ils n'ont pas encore disparu depuis un siècle où ce conflit dure, c'est parce qu'ils sont littéralement enracinés dans les lieux. Et ils sont obstinés comme les lieux. Les lieux ne bougent pas, les lieux ne partent pas, les lieux restent à leur place. Par contre, ce qu'il faut dire aujourd'hui, pour l'état d'âme général, il y a la barbarie, la violence a été telle, les viols en masse, les tortures, font que les peuples arabes sont littéralement, mais au sens le plus fort du terme, stupéfaits. Il y a une stupéfaction aujourd'hui dans le monde arabe, quand vous pensez un peu à l'état d'âme des gens. Les gens sont abasourdis quand ils voient les détails, en se disant « Est-ce qu'il est possible d'avoir un jour pu imaginer une seconde que de telles choses pouvaient arriver chez nous, entre nous et nos régimes ?» Et ça c'est une donne qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, ce facteur-là. Les Palestiniens n'y sont pas insensibles.
Une dernière question d'Antoine Mercier.
Oui, on avait envie de demander si le président Trump, quand même, qui va donc inaugurer cette ambassade, n'a pas quand même un plan, enfin il le dit en tout cas, les Américains ont un nouveau plan de paix à proposer avec une solution à deux États. Est-ce que ça marche encore? Ça a encore un sens pour vous?
Je voulais que je vous donne mon analyse, parce que j'ai pas d'informations, moi, là-dessus. Moi, je pense que les Américains ont décidé de se retirer du conflit. Ils n'auront pas de plan de paix. Et s'ils font un plan de paix, ça sera un plan forcément inacceptable. Donc, ils savent qu'il sera pas accepté. Les Américains ont décidé de jouer cette donne sur le thème « Laissons les Israéliens faire jouer le rapport des forces cru sur le terrain et on verra ce qui en résultera. » Ce qui est un jeu extrêmement dangereux. Mais c'est la politique américaine, je crois, aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qui s'est passée avec moi il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Nous étions en train de discuter des résolutions de l'ONU. Il y a une résolution qui a été votée au Conseil de sécurité contre les colonies. Et il y a une résolution à l'Assemblée générale il y a quelque temps qui a été votée par rapport à la décision de Trump sur Jérusalem. Les Américains s'étaient abstenus lors du Conseil de sécurité sur les colonies. Je dis à un interlocuteur diplomate américain, je dis, mais bon, vous n'êtes pas d'accord avec la résolution qui a été votée contre vous sur la question de Trump. Mais l'autre, vous étiez simplement abstenu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je le cite. Il m'a dit, mais l'autre, c'était une trahison. Je dis, une trahison de qui? Il me dit, d'Obama. Obama avait trahi en s'abstenant. Donc, ça vous donne une idée de l'atmosphère qu'il y a aujourd'hui dans les sphères officielles américaines. Mais c'est jouer avec le feu.
Et des droits plutôt qu'un État, vous entendez aussi le message porté par une fondation comme la One State Foundation qui plaide plutôt pour côté israélien comme côté palestinien pour un État binational et non une solution à deux États, Elias Sambar.
C'était le rêve de nos 20 ans. Hein. Et c'était même pas les deux États, c'était un seul État avec un statut de citoyen pour tout le monde et personne ne s'occupe de l'identité religieuse des uns et des autres.
Mais rêve que certains tentent de réactiver aujourd'hui. Le rêve de vos 20 ans.
Vous savez pas, l'histoire est parfois très rusée. On ne sait pas par quelle voie elle peut cheminer parfois.
Elias Sambar, merci beaucoup d'être passé autour de cette
merci
grande
de m'avoir
table.
Invité.
Et je vous rappelle qu'il y a cette exposition à voir pour un musée en Palestine. Nous aussi, nous aimons la vie actuellement à l'IMA, l'Institut du Monde Arabe à Paris, jusqu'au 13 mai. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table.
Jusqu'au 19 mai.
On prolonge
encore.
J'ai inversé mes 3 et mon 9. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table. Claire Maillot et Clémence Marie, Henri Leblanc et Maxime Morin avec l'aide précieuse d'Émile Boutelier et de Liana Valken à la réalisation aujourd'hui. Perry Legras avec Clément Daté. Merci aussi à Antoine Mercier.